Radio Campus Paris.
18h50, nous sommes le lundi 21 février, vous écoutez Radio Campus Paris en FM sur le web. Ça m'apprendra de faire des blagues avant que ça commence, mais c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, la relève, vous le savez, reçoit chaque semaine de jeunes talents d'aujourd'hui et de demain, et même aujourd'hui, d'hier, puisqu'on va parler des deux Baptistes selon Madame de Sévigné. À la relève, on a de la culture et surtout on lit les dossiers de presse. On va donc parler de théâtre et de musique. Mes invités, ils sont deux, sont comédiens. Bonjour Elissa Aloula et Johan Gaziarovski, est-ce que j'ai bien prononcé vos noms ?
Oui,
parfait. On peut actuellement vous applaudir au Carrousel du Louvre après... Oh là là, je vais essayer de recommencer. On peut actuellement vous applaudir au Carrousel du Louvre, qui est une salle de la Comédie Française, dans un spectacle titre très poétique. Et il y a une raison pour laquelle il est poétique, d'où rayonne la nuit.
Exactement, c'est
alors,
le titre.
Pourquoi ce titre est poétique ? Vous allez nous le dire tout de suite, Johan.
Ah bah, c'est un titre poétique parce qu'il vient des contemplations de Victor Hugo. C'est un emprunt que j'ai choisi pour le titre parce que cet affreux soleil noir d'où rayonne la nuit, c'est un oxymore qui évoquait justement très bien, à mon sens, le rapport entre Molière et Lully qu'on s'attache à raconter dans ce spectacle.
Johan, justement, vous êtes l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle. Sur scène, vous en racontez le making-of de cette pièce de théâtre. C'est un appel d'Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, qui vous appelle en vous parlant de l'anniversaire de Molière et donc de cette année Molière un peu spéciale à la Comédie Française. À ce moment-là, vous pensiez qu'il allait vous proposer quel rôle ? Don Juan, le misanthrope, Scapin ?
Non, je m'attendais à rien. Cela dit, son appel m'a agréablement surpris. J'ai mis une petite semaine avant d'accepter la commande, qui était de raconter, de faire un cabaret autour de Molière, donc autour de la musique baroque, dont j'ignorais à peu près tout. Et sur Molière aussi, dont j'ignorais à peu près tout. Enfin, pour être honnête, je connaissais très peu de choses. Donc, j'ai mis un petit peu de temps, mais j'étais très enthousiaste assez vite.
Et vous, Elissa, vous, quand on vous appelle, vous espérez jouer quel rôle ?
Quand
vous savez que ça sera pour un cabaret ou vous,
non.
Vous dites c'est pour l'année Molière et vous dites ah moi c'est Limène.
Ben après moi c'est Johan qui m'a appelé et comme on est potes je pensais qu'il allait me proposer d'aller boire un coup. Pas du tout ça. Mais non j'étais ravie. Il m'a tout de suite dit qu'il pensait à moi pour Lully.
Et alors, pardon.
Non mais moi pareil je connaissais pas grand chose sur la musique baroque, sur Lully. Sur Molière, quelques textes, mais...
Votre réponse, Alain, là, votre réponse peut avoir l'air d'être une blague, mais on y retrouve aussi l'esprit de la pièce, parce que Molière, Lully, comme tous les grands auteurs, on les voit aujourd'hui avec leur stature, leur œuvre, comme des personnes sérieuses, un peu comme ça. Alors qu'en fait, ce qu'on découvre aussi là sur scène, en tout cas dans la manière dont vous l'avez écrit et joué, c'est une bande de jeunes. C'était volontaire, ça ?
Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'ils sont très jeunes au moment où on parle.
Ils s'appellent pas, mais ils se discutent entre eux, ils se connaissent tous, pardon.
Ouais, mais c'est ça. C'est ce qu'on s'est amusé à inventer au fur et à mesure des répétitions, c'est de trouver comment ils étaient finalement dans les mêmes énergies que nous, des énergies créatrices, avec eux un talent qui fait qu'ils ont perduré dans le temps, qu'on parle encore 200-400 ans après. Mais c'est vrai que ça nous intéressait de voir aussi comment ils pouvaient être en conversation, en recherche, en émulation. Donc ouais, c'est vrai que on a la sensation de quelque chose de très vivant.
Ouais, et d'une bande d'amis. Enfin, ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors quand même, vous vous dites que vous connaissiez peu de choses de Molière, mais quand même, quand on est à la Comédie Française, j'imagine qu'on a un rapport particulier à Molière. On a un Molière à soi.
Moi, je suis arrivée il y a 2 ans et demi maintenant, et c'est vrai qu'avant la Comédie Française, j'avais jamais travaillé de Molière, joué de Molière. Donc j'avais vraiment pas de Molière à moi. Et c'est grâce à cet anniversaire aussi, qui est, je crois, exceptionnel à la Comédie Française, de proposer que des Molières. Et donc là, moi, je suis en train de me faire une petite culture.
Johan ?
Comme Elissa, je me suis mis à lire des ouvrages. Là, il y a une biographie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est très intéressante pour ceux qui veulent découvrir un petit peu la vie de Molière de manière très concrète, très sourcée. Qui est beaucoup moins romantique que ce qu'on peut imaginer et que tout l'imaginaire de figure héroïque, un héros national, etc. Tout ça est déconstruit, mais de manière très scientifique. Donc c'est très intéressant et on a accès justement à un homme de théâtre, à une troupe avec des femmes très influentes au sein de cette troupe et avec des dynamiques de troupe qui sont très proches de ce qu'on vit actuellement dans notre troupe de la Comédie Française.
Alors j'entendais récemment un professeur de la Sorbonne, je crois que c'est Georges Forestier, mais je ne suis pas sûr, qui trouvait qu'on étudiait trop jeune les textes de Molière. Ah. J'avais juste envie de vous demander, vous, quel souvenir vous avez de Molière? Comment vous le perceviez quand vous étiez adolescent?
Moi j'ai souvenir, je crois que c'était au collège, en 6e ou 5e, d'avoir lu Le médecin malgré lui.
Ouais, Sganarelle, tous.
Sganarelle et cette scène de Martine et Sganarelle, je crois, qui s'engueulent. Qui se tape dessus même, je me souviens en la lisant d'avoir eu une sorte de fou rire et c'était la première fois de ma vie que je riais en lisant un texte et donc voilà, je me suis pas dit ah j'adore Molière mais
vous ça, en souvenez en
ça,
tout cas
ouais, ça m'avait marqué.
Je me souviens d'être allé voir une pièce qui s'appelle Monsieur de Pourceaugnac qui se jouait
avec l'école,
ça se jouait au théâtre de Châtellerault où j'étais pas loin de d'où était mon collège. Je me souviens d'avoir beaucoup ri aussi. Je me souviens de ça chantait, ça virevoltait un peu sur scène et je me souviens avoir ri et d'être content d'avoir vu ça. Mais voilà,
et
c'est
après,
le seul souvenir.
Il y a un peu le Molière qu'on étudie chaque année, c'est qui devient un peu un pensum, non? Enfin, je sais pas, peut-être pas pour vous.
Bah, il est, dans le sens où il est dans les programmes, vous
oui,
voulez
c'est
dire?
Ça, et puis un par an, voire deux.
Oui. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Il est régulièrement monté et puis on nous emmène, les professeurs sollicitent énormément cet auteur parce que finalement on y retrouve certaines permanences. Et puis ce qui est intéressant je pense aussi quand on étudie Molière, c'est la mécanique de comédie, de théâtre, de découvrir comment s'écrit le théâtre, etc. C'est une matière géniale pour... Enfin, les textes de Molière, c'est formidable pour découvrir comment on écrit du théâtre par exemple, comment on écrit dans un registre comique.
Comment on écrit un dialogue, toutes ces
choses-là. Comment on écrit un dialogue, sur la page, quelle forme ça prend. Voilà, tout ça, c'est une très bonne entrée en matière, je pense.
Johan Gazirovski, donc je rappelle que vous êtes aussi l'auteur. Vous l'avez écrit seul, vous l'avez écrit avec la troupe, vous l'avez écrit un peu sur le plateau, là, la pièce. Ça s'est passé comment?
Il y a eu deux phases. J'ai écrit d'abord tout seul, en dialogue avec le directeur musical, Vincent Leterme, qui lui me suggérait des idées de musique, parce que dans ce spectacle,
il y a
on chante énormément. Et en rebond, moi j'écrivais des scènes, et puis inversement, j'écrivais des choses, et lui ça lui faisait penser à des musiques du répertoire baroque, donc écrites par, composées par Lully ou Charpentier, notamment. Et puis ça, c'est la première phase. Un peu solitaire, ou en tout cas à deux avec Vincent. Et ensuite, on a ajusté ce texte avec les comédiennes et comédiens, on répète.
Et donc, entre le moment où donc, on revient à cet appel d'Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française, et le moment où vous commencez à écrire, comment vous vient l'idée d'écrire sur cette relation entre les deux plutôt?
Je crois que le petit déclic, c'est un podcast que j'ai entendu. Parce que je me suis nourri de beaucoup beaucoup de matières, que ce soit des podcasts ou des bouquins, mais je crois que c'est un podcast qui m'a déclenché cette envie là parce que j'y ai vu quand même une trame narrative. On avait la commande, c'était d'un spectacle d'une heure, donc il fallait quand même essayer de ramasser un petit peu l'histoire qu'on voulait raconter. Donc il m'a semblé que c'était intéressant en écoutant ce podcast et puis en creusant un tout petit peu plus après autour de Molière et Lully, plus précisément. L'idée était de parler de Molière et la musique, rapport de Molière à la musique. Et ensuite, je me suis dit, ah, bah, quand même, c'est un axe, là, Molière et Lully, qui est intéressant.
Et vous, Elissa Aloula, quand on vous dit que vous allez jouer Lully? Parce que Molière, on a quelques idées sur lui, mais Lully, pas forcément. Enfin, peut-être
ah
vous,
oui.
Mais
moi, j'avais aucune
je ne suis pas
idée.
Sûr qu'on en ait. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, bah, c'est un copain, mais merci du cadeau. Des copains
non,
comme ça, je m'en passerai.
C'est bien, il fait confiance. Non, bah, du coup, j'ai lu, pareil. J'ai
donc
cherché,
là, vous lisez des biographies
Oui, des biographies. Il y en a une notamment de Lagorce, que Vincent Leterme m'avait fourni de la bibliothèque et qui était vraiment éclairante. Et puis des podcasts, plein de matières. Et puis après aussi mon imaginaire, quoi. Je me suis inventé le Lully.
Comment on l'invente alors ça, comment on fait pour s'inventer un personnage historique?
On rêve.
Ah oui.
Ouais, on rêve. Puis forcément, c'était aussi un peu de moi. Je dis, voilà. quels pourraient être nos points communs entre moi, Elissa et Jean-Baptiste et... Lully. Et voilà, je...
Vous, Johan, vous les inventez comment quand vous les écrivez? Parce qu'il faut aussi trouver une langue. Alors, faire parler Molière quand on l'a lu, c'est compliqué, non?
Ah
et
oui,
faire parler tous les autres aussi, bien sûr.
Ça, mais... C'était une gourmandise. Après, moi, je suis plus très inspiré par l'humour anglo-saxon, par les séries, notamment de Ricky Gervais. Voilà, il y a des endroits d'imaginaire comme ça qui n'ont rien à voir avec Molière. Et je me disais que c'était intéressant, justement, de venir injecter comme ça cette écriture-là. C'était l'écriture de maintenant, c'était faire parler les gens maintenant. Ce qui m'intéressait, c'était de voir les gens de la troupe, de cette génération, avec les générations des plus anciens dans la troupe.
On va citer la distribution, si vous me permettez. Elsa Le Poivre, Serge Bagdasarian, Johan Gaziorowski, c'est donc vous. Ouais. Elissa Lula, c'est vous. Mmh. Et là, je tourne ma tête dans l'autre côté. Biranba, Shaina Clavaron.
Clavaron.
Puis tant que j'y suis, je vais donner les musiciens.
Bah, bien sûr.
Elena Andreiev, ouais. Cécile Vérol, Damien Pouvreau et Nicolas Vatine.
Exactement.
Il y a tout ce monde-là sur la scène.
Il y a tout ce monde-là sur la scène. Scénographie de Chloé Bellemer, des lumières de César Godefroy. Et puis
des costumes magnifiques.
Ouais, et puis Marie-Ange Gagnot, qui est notre collaboratrice artistique. Voilà, toute cette petite équipe, on est parti. Donc, on a effectivement, vous parliez du texte, donc
ouais.
La langue, etc. Pour moi, c'était très important d'utiliser cette langue-là, qui nous est très familière. Et puis de circuler, justement, de parfois de tac aller dans un texte qu'a pu écrire Molière lui-même. Quand Molière, par exemple, décrit ce qu'est une comédie-ballet. Il l'a écrit noir sur blanc en prélude du mariage forcé, je crois, ou des fâcheux, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est sa langue, c'est lui. Et donc, Biranba, par exemple, a en charge de dire les mots de Molière et puis, tac, de basculer aussitôt dans une langue quotidienne. Ça m'amuse beaucoup de travailler là-dessus.
Voilà, on découvre au passage que Ricky Gervais peut inspirer un spectacle actuellement à la Comédie Française. Il est temps de balayer les clichés. C'est sur le programme qui est devant mes yeux, on parle d'impromptu musical. Vous pouvez rappeler ce qu'est un impromptu?
Une comédie de comédien, ça veut dire c'est une forme de théâtre où on voit des artistes au travail. Ça veut dire que Molière a écrit un impromptu, l'impromptu de Versailles, où Molière se met en scène lui-même en train de diriger ses actrices et ses acteurs. Qui parlent à la fois de leur rôle, qui parlent de l'histoire qu'ils ont à jouer et de tous les problèmes inhérents au fait de jouer une pièce de théâtre.
Comme donc, une sorte d'improvisation, voilà. qui se créerait sous les yeux des spectateurs.
Exactement.
Ce qui parfois semble encore aujourd'hui, quand on voit des films ou même des pièces qui prennent cette forme-là, on a l'impression que c'est une création très moderne. En fait, c'est très vieux.
Oui.
C'est ce que j'ai découvert.
C'est
qu'on n'invente pas grand-chose. Hein.
Non, on s'inspire sans cesse. C'est ça qui est intéressant aussi dans nos disciplines, c'est qu'il y a du rebond incessamment. Quoi.
Comment vous avez intégré la musique? Parce qu'elle sert aussi à raconter. Alors là, c'est Vincent Leterme qui vous a aidé par sa connaissance des chansons de l'époque. Enfin, des chansons, je ne sais pas si on appelle ça des chansons.
Oui. C'est des airs, des airs de cours, des chants, des intermèdes. Donc oui, Vincent, il a fait un gros travail à la fois pour exhumer des partitions qui n'étaient pas forcément beaucoup jouées, et puis pour arranger aussi un petit peu avec son univers à lui des airs qui étaient très connus, par exemple les airs du bourgeois gentilhomme, tous les medleys à boire. Bon bah on les a un petit peu modifiés. Donc c'est lui qui a fait beaucoup sur l'aspect musical. C'est vraiment lui qui a travaillé.
Est-ce qu'on peut dire que Molière et Lully ont aussi inventé la comédie musicale? Ou est-ce que
il y en a tous les codes, en tout cas.
Carrément, je trouve.
Ouais. Ouais. Il y en a tous les codes. C'est raconter une histoire avec une cohérence entre les chansons et les scènes parlées. C'est ce qu'on voit maintenant dans les comédies musicales.
Ouais, de la danse.
De la danse. Quand même des shows. Il faut imaginer que les comédies ballets à l'époque de Molière,
Lully, c'est à Versailles, donc j'imagine.
14, c'est à Versailles, ça se termine avec
budgets,
des feux d'artifice. Il y a un budget énormissime.
Énorme.
Parce qu'il y a quantité de figurants. Il y a des animaux, les gens sont sur des ours, sur des éléphants. Nous, on raconte dans le spectacle que le prologue de Madeleine Béjart. Elle sort d'une coquille dans l'eau, ça veut dire qu'il y a une machinerie pas possible.
Elle doit jouer nue, elle veut pas, je crois, si je me souviens.
Ouais, finalement, en fait, on sait qu'elle a joué nue et nous, on s'en amuse justement dans le spectacle.
Très bien, on va. Pardon, Elissa Lula, vous êtes contente d'avoir joué dans une comédie musicale ? C'était votre.
Oui. C'était un. Oui, je j'aurais jamais cru parce que je chante pas forcément. Mais c'est chouette que Johan nous ait m'ait fait confiance. Et ouais, ouais, j'ai. Je suis très contente.
Alors, on va écouter un extrait du spectacle maintenant.
Jean-Baptiste ! Décret royal, Lully devient le seul détenteur des droits de l'opéra en France.
C'est une blague !
Privilège en faveur de Sir Lully pour tenir Académie royale de musique.
Mais la suite ?
Défense de faire chanter aucune pièce entière en musique sans sa permission écrite. Interdiction de faire des danses, des ballets, de faire aucune représentation accompagnée de plus de deux airs et de deux instruments sans sa permission écrite. Comment il a fait pour avoir le privilège ?
Bah, peut-être que le roi préférait l'opéra.
Bah, de toute façon, non. Il dansait plus dans les ballets. Hein. Peut-être qu'il en a eu marre de regarder les autres danser.
Ouais. Une blessure, il mise tout sur l'opéra, je suis pas certaine de ça, moi.
Alors, il nous a complètement oublié.
Tu veux ma mort, Jean-Baptiste ?
Pourquoi ?
Pas plus de deux ailes et de deux instruments sans deux permission écrite. Il y a
72 ! C'est désormais le privilège de l'opéra.
Mais moi, je veux jouer dans mon théâtre, on a joué à la cour avec mes musiciens.
Nous, si on doit se passer de musiciens, on peut plus jouer.
C'est le sens d'un privilège, mais demande pas l'autorisation.
Après 11 spectacles ensemble, pour faire ça.
Me protège, Madeleine, l'opéra me coûte très très
cher. Mais te protéger de nous, non, mais ça va pas.
Non, mais pas là, les questo tanto.
C'est vraiment mine.
Mais tu sais, plein la merde.
La merde. Tu crées du théâtre
avec des poutres là.
Ah non, pas les poutres. Tout le monde te déteste. Madeleine, Poilon, Racine. Fiorentino, va. Con la tua opera di cazzo!
La mia opera ti manda a cagare, borghese leccaculo di merda!
On est en quelle année là?
1672.
Quand ?
En 1673, un an après Madeleine.
Là, on était à la Comédie Française. Il ne faut pas que je me trompe. Au Carrousel du Louvre, c'est le studio ? Non, le studio.
Oui.
Ouais, c'est ça. On était au studio de la Comédie Française au Carrousel du Louvre. On écoute un extrait d'Oreillon à nuit, le spectacle. J'aime bien cet extrait parce qu'on voit bien le patchwork des différents langages. Ce moment où c'est Molière qui demande quand est-ce qu'il va mourir.
Hein. Oui.
Donc là, c'est Biran, humour que vous aimez bien.
Oui, parce qu'en fait, c'est Biran qui joue. On est sans cesse en train d'entrer et de sortir des rôles qu'on décide de jouer. Donc ça, c'est le principe de ce spectacle. Ça veut dire que Biran décide de jouer Molière et puis on vérifie tout le temps les informations parce qu'il y a un rapport à l'histoire et à la dialectique, moi, qui m'intéresse parce qu'on n'est jamais sûr de toutes les informations, de toutes les sources qu'on a. C'est très mystérieux comme, mine de rien, la vie de Molière et Lully est très mystérieuse, très peu sourcée. Donc ça permet de remettre en question sans cesse et puis de s'assurer qu'on a bien les bonnes informations. Donc on joue nos propres rôles. Et c'est vrai que ces petits allers-retours, quand Biran demande quand est-ce qu'il meurt, voilà,
ça crée des ruptures et puis après on enchaîne avec de la musique baroque, je ne crois pas me tromper. Et on voit aussi à quel point à ce moment-là être artiste, et peut-être est-ce que ça l'est encore aujourd'hui, est une activité éminemment politique parce que quand Lully obtient le privilège de l'opéra, c'est le théâtre de Molière, c'est toute son économie, c'est ça, on le comprend très bien sur scène quand on voit la pièce. C'est vous donc qui êtes la méchante.
Oh mais non, il est pas méchant, Lully. Non, après
évidemment.
C'était oui, mais c'était aussi de la survie, je pense. En fait, ils ont eu beau collaborer ensemble et il y a eu, sans spoil, il y a eu des dissidences en fait artistiques aussi. Et donc chacun a défendu aussi sa place, son bout de gras. Et puis à l'époque, c'était Louis XIV qui décidait de tout, donc voilà. Le privilège qu'on lit sur la scène, c'est un brouillon qui finalement n'a pas été
je crois, hein,
validé.
Il a pu refaire une pièce, voilà. Molière, ouais, avec des musiciens.
Le Malade Imaginaire, justement, il y avait 12 musiciens, je sais pas quoi, enfin plein de...
L'ultime pièce, donc, de Molière.
Ouais.
Et ce brouillon, c'est au prix de nombreuses intrigues, auprès du roi notamment, donc c'est vrai que c'est très intéressant de comprendre les jeux d'influence aussi avec le pouvoir. C'est quand même, Molière a vécu grâce à la subvention finalement du roi. Et d'un seul coup, c'était très étrange de voir le roi accepter un tel privilège pour Lully, qui empêchait Molière de jouer les comédies-ballets qui faisaient son succès, et financier notamment. Donc le roi a un rôle assez mystérieux aussi dans cette brouille, ce qu'on appelle la brouille entre Molière et Lully. C'est ce qui nous intéresse de raconter. Et on met en perspective ça aussi dans le spectacle, parce que évidemment qu'à la cour on fait la fête, on mange des buffets, des grands festins à n'en plus finir, et puis on a des feux d'artifice, et puis on boit jusqu'à pas d'heure, et en même temps il y a des morts innombrables dans les combats qui ont lieu dans les campagnes de guerre que mène Louis XIV au même moment. Donc pour moi c'était intéressant de voir ce frottement un petit peu ambivalent.
Très bien, on n'a pas Lully, mais on a aussi de la musique sur Radio Campus. Mmh. Et ça part. Voilà, on est désolé pour Metronomy, It's Good to Be Back, mais l'essentiel c'est qu'il soit revenu,
qu'il soit back.
Mais oui.
La relève sur Radio Campus Paris.
Oui, on parle toujours avec Johan Gazurowski et Elissa Aloula de D'où rayonne la nuit, actuellement au studio de la Comédie Française. Je rappelle que c'est au sein du Carrousel du Louvre. C'est une petite salle, une très belle salle.
Ouais. Et il faut se dépêcher, il ne reste que quelques places pour la dernière semaine, justement.
Ah, alors on se dépêche.
Ouais.
Et je crois que si je ne m'abuse, à la Comédie Française, il y a des tarifs pour les étudiants.
Oui.
Donc on y va en plus.
À partir de 15 euros quand on a moins de 28 ans, enfin c'est même 15 euros quand on a moins de 28 ans, donc c'est très intéressant au studio.
Très bien, vous êtes parfait, j'ai même pas besoin de le faire. Vous disiez qu'on sait peu de choses de la relation entre Molière et Lully, notamment de la manière dont ils travaillent ensemble. Il y a un passage dans la pièce, un moment où vous parlez de l'éphémère du spectacle vivant, avec Lully, on parle de la danse, on parle de... Vous imaginez en tout cas que ces gens-là ne pensaient pas qu'on les fêterait 400 ans plus tard ? J'ai peur de m'être trompé sur la date, c'est bien 400 ans.
Non, 400 ans, ouais. Bah, c'est sur la matérialité de l'art, ça c'est très intéressant, ouais. C'est d'ailleurs Elissa qui prend en charge cette pensée-là.
C'est quelque chose qui vous travaille, vous, l'un et l'autre ?
Oui, enfin moi je trouve qu'au théâtre c'est exactement ça quoi. Chaque soir la représentation est différente, c'est un art qui est éphémère et en ça je trouve ça magnifique, poétique et de se dire que c'est comment dire ouais c'est volatile.
C'est quelque chose de l'ordre du don qui n'a eu lieu qu'une fois et qui n'aura plus jamais lieu. Est-ce que par rapport alors puisque pendant vous avez connu le confinement la Comédie Française, vous en avez profité je crois l'un et l'autre, vous avez été membre actif de ce projet de Web TV.
Oui,
Web TV.
L'ensemble de la troupe et l'ensemble des services d'ailleurs a contribué.
On peut en parler un petit peu. Donc aujourd'hui elle existe toujours. On peut voir quoi sur la Web TV, je sais pas comment on dit.
Non, actuellement là il y a des lectures à la table. Qui sont un peu mises en scène aussi, mais plus sous forme de lecture, en présence de public, et qui sont en live, du coup, filmées par Clément Gobert.
Ouais.
Et voilà, et ça, c'est disponible.
Sur la chaîne YouTube et sur Facebook, je crois, le Facebook de la Comédie Française.
Et ça, tous les acteurs étaient d'accord. On peut imaginer que certains n'ont peut-être pas envie d'être filmés. C'est facile d'innover comme ça ?
C'était du coup pendant le premier confinement de mars 2020 où il y a eu cette proposition de la part de l'administrateur. Après, c'était un peu au volontariat, personne n'a été contraint et forcé. Et puis voilà, c'était, enfin, je sais pas, plutôt quand même ludique comme format. Alors, tout le monde, on n'avait pas les mêmes.
Là, vous laissez une trace là pour le coup, vous n'êtes plus dans l'éphémère de la présentation.
Alors, sauf qu'ils étaient disponibles que 24 heures sur YouTube et après, chaque pastille, donc chaque journée effaçait l'autre. Et du coup, il y avait ce petit côté éphémère quand même. Et voilà, donc les pastilles, c'était, moi j'ai trouvé ça plutôt ludique à faire. On avait des thèmes, des questions. Enfin, c'était, et chacun, chacune s'en emparait à sa façon.
Ce qui était vraiment chouette, c'était de savoir qu'on s'adressait à des gens qui ne connaissaient des fois même pas la Comédie Française. Mmh. Donc, qui, au détour d'une journée sur leur ordinateur, pendant le confinement, forcément, à un moment donné, on peut trouver des choses, et notamment cette chaîne YouTube. Donc. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir que ces gens-là ont peut-être le goût de venir nous voir maintenant dans les salles. S'ils viennent à Paris ou s'ils sont déjà à Paris, ça c'est aussi intéressant pour nous. Et puis on se rend bien compte qu'on accède aussi à un public de générations différentes. Donc ça c'est aussi très 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 intéressant.
Vous vous êtes amusant sur la distribution de Doux rayonne la nuit. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est vous qui choisissez les gens que vous avez voulu dans votre pièce là, puisque vous l'avez écrite.
Bah oui, en fait j'ai eu cette chance là de pouvoir.
On peut quand même le dire. Lully est joué par une femme. Molière n'est pas joué par une femme, mais il y a une petite surprise aussi.
Non, parce que Molière est joué par Biran, qui est un acteur noir. Elissa est une femme.
Ça vous amusait Non,
c'est pas que ça m'amusait, c'est que moi c'était les énergies. Voilà, moi je mets pas ça en exergue parce que ce qui m'intéresse c'est les énergies des actrices et des acteurs. Donc je pense que c'est surtout ça qui compte. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'était de rêver, de penser à eux quand, sur le plateau, en train de dire ces mots-là. Ça, c'était une jubilation quand j'écrivais. Et en fait, ce qui était aussi très, très intéressant pour moi, c'est de les voir se lancer dans ces figures comme ça, qui étaient quand Kleina se lance dans Armande Béjart ou quand Elsa se lance dans la figure de Madeleine Béjart et que finalement, elle me dit j'ai tout à relire, parce que j'en connais pas la moitié en fait. Donc, tout ça, c'est ça que je trouve vraiment génial.
Je vous remercie tous les deux d'être venus, Elissa Aloula et Johan Gazurowski. D'autant que vous m'avez dit que dans 2 heures, vous êtes sur scène. Alors, dans 2 heures, on peut vous applaudir dans
Le Malade Imaginaire.
On reste chez Molière. Donc vraiment, merci d'être venus deux ans avant la représentation. Merci.
Merci.
C'était La Relève préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par la femme qui assume la pire chose que je connaisse au monde, mes angoisses. Merci Suzanne d'avoir été là. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes sur le site de la radio. On se retrouve très bientôt sur Radio Campus Paris et à 19h, je crois que vous avez rendez-vous avec la matinale. Voilà. Eh ben non, il n'y a pas de matinale, me dit-on. Eh ben alors, vous aurez rendez-vous avec une surprise à 19h. Au revoir.